Bonsoir, bienvenue à la BPI. Donc je me présente, je suis Christine Manas-Denarié. Je travaille au service du développement culturel et actualité. Nous recevons ce soir Sébastien Calvet, directeur photo du site d'information Les Jours, qui est un pure player tout en ligne. Nous le recevons ce soir pour nous parler d'abord de son parcours, de son métier. Pourquoi a-t-il choisi le métier de directeur photo ? Nous aurons une seconde partie plutôt axée sur la place de la photographie dans le site d'information Les Jours et peut-être, si nous avons le temps, plus généralement sur la place de la photo dans la presse. Donc à cette fin, nous avons sorti des documents que nous vous ferons passer et qu'on pourra commenter. Entre les deux, je vous propose une première série de questions à mi-chemin, sachant que la rencontre dure une petite heure. Et puis de nouveau, des questions à la fin. Voilà, si vous n'avez pas pu parler au milieu, vous pourrez poser vos questions à nouveau à la fin. Mais avant de poser quelques questions à Sébastien, je voulais vous parler du lieu où nous nous trouvons. Donc nous sommes à la BPI, à l'espace presse. Donc si vous regardez de ce côté, pour les personnes qui ne connaissent pas, nous avons à peu près 200 titres de presse papier française et étrangère. Nous avons des milliers de sites d'information et de publications en ligne que vous pourrez regarder sur place. Et notamment, nous sommes abonnés au jour. Donc sur les posts de l'espace presse, vous pouvez tout à fait prolonger après cette découverte par une consultation des jours. Autre chose importante à mentionner, la soirée est enregistrée. Donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait retrouver le podcast et ensuite le diffuser autour de vous. Voilà, donc tout ce qu'on fait est enregistré. Et notamment, donc, cette soirée n'est pas isolée, elle fait partie d'un cycle qui s'appelle Reportage État des lieux, qui a débuté cette année et qui se poursuivra jusqu'en décembre 2018 avec plusieurs rendez-vous. Donc on avait reçu également François Meurice, journaliste éditeur pour Les Jours. Le podcast est écoutable en ligne et donc toutes les rencontres sont mentionnées, et y compris la prochaine, le prochain débat sur le récit journalistique le 4 juin. Voilà. Alors nous attaquons tout de suite. Donc Sébastien Calvet, déjà merci d'être là. Alors,
merci à vous.
En deux mots, qui êtes-vous ? Quelle est votre fonction et comment on en arrive là, mais on va affiner après.
Alors, oui. Alors bonsoir d'abord. Alors moi, je vous disais tout à l'heure que j'ai choisi d'être directeur photo. J'ai d'abord choisi d'être photographe. Je vais vous parler d'un souvenir intime et d'enfance. J'avais 12 ans quand ma mère épluchait les patates au-dessus d'un Libération qui était ouvert pour recueillir les épluchures. Et il y avait une photo au milieu de ces épluchures. Et je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Et cette image ne m'a jamais quitté. Donc j'ai toujours voulu être photographe, mais photographe dans un journal. Voilà, moi, j'ai jamais travaillé en agence, donc j'ai d'abord fait des études de cinéma. Après, j'ai fait l'École nationale de photographie à Arles. Je suis rentré à Libération assez rapidement. Je suis d'abord rentré à l'agence Vue, qui était une agence de photographes qui appartenait à Libération, qui était dans l'immeuble historique rue Béranger. Et je suis rentré à Libération en 2000 comme photographe et je l'ai quitté en 2015. En 2015, je suis parti de Libération avec d'autres camarades, avec l'arrivée de Patrick Drahi. Le projet ne nous correspondait pas et finalement le projet des jours, desjours.fr, il démarre à l'intérieur de Libération. Où, avec plusieurs journalistes, on réfléchit à une autre manière de faire du journalisme et de transformer ce journal. Donc on travaille déjà sur une base de projet, on se pose des questions sur le récit journalistique, sur la récupération de l'agenda, de l'actualité, du rythme de l'actualité. Ce travail ne trouve pas preneur au sein de Libération, donc nous quittons Libération et nous créons Les Jours qui commencent à être en ligne en mai 2016. Donc il y a pile 2 ans. Donc dans ce projet, il y avait tout de suite la volonté de mettre la photographie à sa place, c'est-à-dire comme un élément d'information aussi important que ce que peut l'être le texte ou le son ou la vidéo. Parce que on croit, parce que nous sommes tous issus de Libération, qui a déjà en soi une culture de la place de la photographie et de la place des photographes, parce qu'on croit que la photographie peut dire des choses, que les photographes ont un point de vue sur les choses et l'actualité, et qu'il est intéressant pour le lecteur d'avoir au moins deux voix, c'est-à-dire celui du rédacteur ou de la rédactrice du texte et celle du ou de la photographe. Donc on a essayé de reprendre ce concept, cette philosophie-là, et de l'appliquer à un journal, mais qui est un journal uniquement sur le web, tout en numérique.
Oui, justement, pour resituer, je ne sais pas si tout le monde connaît le site d'information Les Jours. En fait, en deux mots, donc c'est un pure player journal tout en ligne qui travaille autour d'obsessions. Hein, ce sont des obsessions qui reviennent, soit sur des sujets d'actualité. Ouais.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le modèle éditorial des Jours, en fait, c'est quelque chose de... Ça part d'une évidence et d'une volonté de changer le récit journalistique. On fait un site d'information. Mais ce site d'information, à la différence d'un journal, on a éliminé les rubriques. Quand vous prenez un journal, vous vous retrouvez quasiment tout de suite, puisque vous avez des rubriques France, international, sport, société, science. Bon, ben nous, on a enlevé tout ça. On n'a plus de rubriques. En revanche, on marche par ce qu'on appelle des obsessions. Alors, pour faire court, des obsessions, on va dire que c'est des dossiers thématiques autour d'une actu ou d'un sujet. Et à partir de là, de ce sujet, on va le suivre et on va le traiter à la manière de reportage, mais on va se donner une temporalité que le web nous permet, c'est-à-dire qu'on veut ce sujet, on va le prendre, on va démarrer et on va le continuer assez longtemps. Je vous prends un exemple, on n'a pas de rubrique éducation. En revanche, ça fait 3 ans qu'on fait des sujets qui s'appellent, le premier s'est appelé les années collège, le deuxième les années lycée, et nous sommes en train de faire en ce moment les années fac. À chaque fois, on prend, pour les années collège, c'était une classe de troisième, pour les années lycée, on était dans un lycée professionnel, et pour les années fac, on a démarré à Nanterre dès septembre avec des étudiants, et on s'est installé au milieu de la faculté où on a un vrai couple de journalistes que sont Jeanne Boézek, qui est rédactrice et qui fait aussi du son, qui travaille en podcast sur ce sujet-là, et Jeanne Franck, qui est photographe, et elles ont travaillé à deux sur la fac de Nanterre. Alors, elles ont commencé en septembre, la fac de Nanterre, il ne se passait pas grand-chose, c'était la vie étudiante, c'était l'idée de décrire la vie étudiante. Et puis, en septembre, octobre, il y avait déjà un syndicaliste qui s'appelait Victor Mendez et qui essayait de mobiliser les étudiants devant des amphis où il y avait quasiment personne. Et puis, on a continué, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Et mars, ah là, d'un coup, les amphis sont pleins. Il y a 3000 personnes dans l'amphi. Et le Victor Mendez qu'on a vu sur Les Jours apparaître devant des amphis vides, eh bien, il est devant des amphis complètement pleins et il répond à toutes les caméras et toutes les radios. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir une rubrique éducation ou société sur laquelle on irait parler de cette actu au moment où elle sort, on essaie de se dire que dans ce secteur-là, il y a une histoire, il y a des personnages, et on va les attraper même avant qu'ils fassent l'actualité pour pouvoir les suivre et être là au moment où cette actualité surgit. Alors, ce qui est intéressant pour le lecteur, c'est que quand il arrive sur le papier, en venant de Facebook, de Twitter ou d'Instagram, sur notre site, sur le papier qui va raconter la dernière AG de la semaine dernière, il va pouvoir lire ce papier d'actualité. Mais il va pouvoir lire aussi 27 autres articles qui précèdent cette actualité. Donc il a une connaissance très profonde de cette actu et de cette info-là. Donc c'est ça qu'on veut faire. Voilà à grands traits le modèle éditorial qu'on essaie d'appliquer à peu près sur tous les sujets. Dernière chose, ce qu'on appelle la mise en scène de l'information, qui n'est pas quelque chose de péjoratif, c'est un vrai travail, on en parlera, c'est aussi sur les images, mais la mise en scène de cette information-là, elle se fait à la manière des séries télé. On s'inspire beaucoup de ce que peut faire Netflix, le travail sur les séries, sur les personnages, sur la redondance et le suivi des épisodes, pour adapter le récit journalistique avec toute l'exigence que ça peut avoir au nouveau support numérique d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs la richesse de ce site d'information que de mêler multimédia. Vous avez parlé du son, de la photo. Donc, on reviendra après dans la seconde partie, plus précisément sur le travail photographique. Moi, j'avais une question. Quand vous dites au début, j'étais photographe. Voilà. Bon, alors, comment devient-on ? En fait, j'ai deux questions en une. Hein. C'est comment passe-t-on de photographe à directeur photographique ? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, vous avez parlé de l'école photographique d'Arles, qui, en fait, si je ne me trompe, est aussi une école d'art. Donc, là aussi, j'ai envie de dire pourquoi, finalement, ne choisit-on pas la voie artistique plutôt que le reportage ? Et puis, est-ce qu'il y a eu des déclics, des rencontres ? Est-ce qu'il y a eu des publications, des choses qui ont permis, en fait, de faire cette bascule ?
Alors, moi, j'ai fait l'école d'Arles parce que j'ai une inclinaison qui est plus plastique. Je vais dire un truc un peu terrible. J'ai l'impression qu'on n'apprend pas grand-chose dans les écoles de journalisme, si ce n'est le formatage. Je pense que si on veut devenir journaliste, si on sait bien écrire et qu'on trouve des bons sujets, on va écrire des papiers. Donc voilà. Bon, après, je partage pas forcément cet avis, mais voilà. C'est un peu la même chose sur la photographie. Je pense que la photographie reste quand même un élément, même le photojournalisme, qui est un élément purement graphique. Et le photographe a une grammaire qui est une grammaire visuelle, et cette grammaire visuelle, il va s'en servir pour, dans un cadre, rassembler des éléments qui soit vont donner une émotion s'il est un artiste, soit va donner une information s'il est journaliste. Voilà. Mais le principe d'organisation des éléments graphiques dans un cadre, dans une photographie, il reste le même. Donc moi, j'ai fait une école d'art, effectivement. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait derrière. Mais je pense que c'est ça qui a fait aussi la différence quand j'étais photojournaliste, photoreporter, parce que j'ai su m'extraire aussi d'un nez un peu trop collé à l'événement. J'ai toujours pensé qu'on était bon journaliste quand on oubliait l'événement, quand on essayait de s'en détacher au maximum, pour voir ce qui est important. Parce que finalement, moi, j'ai passé 16 ans de ma vie comme reporter à Libération. J'ai fait 321 du journal. J'ai fait énormément de sujets. Je suivais essentiellement la politique. J'ai fait 3 campagnes présidentielles, toutes les élections intermédiaires. J'étais accrédité à l'Élysée. Donc, c'est une espèce de rouleau compresseur comme ça où, finalement, on fait des micro-événements, mais qui, en eux-mêmes, n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de tenir le fil rouge, non seulement de votre regard photographique, et aussi du regard que vous posez sur les personnages que vous voyez évoluer. Moi, j'étais un photographe qui faisait essentiellement de la politique. Donc, en 16 ans, j'ai vu des gens qui étaient leaders étudiants, comme mon Victor Mendez dont je vous parlais tout à l'heure, et qui sont devenus ministres après. Voilà. Donc, je les ai vus évoluer devant mon objectif, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que j'en ai retenu. Quelle était la deuxième question ?
Et en fait, voilà, c'est finalement... comment bascule-t-on après de ce métier
L'un étant la conséquence de l'autre, il y a un moment où... Alors, j'étais ravi parce que photographe dans un quotidien comme Libération, vous travaillez tous les jours et puis vos photos, vous les amenez le soir, vous les éditez et puis le lendemain, c'est dans le journal, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais ressenti... J'ai fait des expos dans des grands festivals prestigieux, mais rien ne m'a jamais fait plus plaisir que le lendemain d'un reportage, je suis dans le métro ou dans le bus, et puis il y a quelqu'un avec le journal, et par-dessus son épaule, je vois que c'est ma photo qui regarde. Et, ou même un journal froissé dans une poubelle ou dans le caniveau. Je trouve que ce qui est beau, c'est l'appropriation par le lecteur de votre image ou de ce que vous avez fait, et que... si finalement c'est assez éphémère, on l'oublie et puis le lendemain on repart et on va refaire autre chose. Donc c'est ça qui m'a toujours touché, ce moment-là. Après, ça c'est pour la vision poétique et merveilleuse de ce métier. Après, il y a un moment où c'est une production assez folle. C'est-à-dire quand vous travaillez dans un journal quotidien, c'est jamais terminé. C'est-à-dire que vous courez partout, vous avez la photo, ça y est, vous êtes content, vous l'envoyez, elle est mise en page. Vous rentrez, vous vous couchez, le lendemain, ça recommence. Quoi. Donc, et ça ne connaît pas de pause. Et donc, il y a un moment où ma production photographique, j'ai senti qu'elle était un peu en automatique. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrête. Voilà. Donc je me suis mis un peu en écoute de projets autres. Et le projet des jours est arrivé avec mes petits camarades au sein de Libération. Ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de la photographie. Et donc j'ai arrêté de faire de la photographie moi-même. En revanche, je me suis mis à fond sur être au service de la photographie des autres. Et de travailler avec des photographes sur des commandes, en collaboration, en dialogue, pour essayer de faire émerger une production photographique indépendante au sein des jours.
Oui, je trouve que c'est très intéressant. Finalement, vous avez été au bon endroit, au bon moment, vous avez saisi cette opportunité. Parce que quand même, le travail, on reviendra plus avant tout à l'heure, de directeur photo est quand même différent, même si oui, la base du travail est...
Alors, il est différent, mais si vous voulez, mon parcours me permet de bien connaître... Alors, ce n'est pas forcément le cas de tous les éditeurs photos. Il y a des éditeurs photos qui n'ont jamais été photographes et donc qui ne connaissent pas le terrain. Moi, j'ai une connaissance du terrain, d'un terrain particulier, mais j'ai une connaissance du terrain. Donc, je sais ce que je peux demander ou pas aux photographes à qui je commande des reportages. Je sais dans quel délai je peux leur demander ça. Voilà, je sais que les photographes souffrent beaucoup de manière générale dans la presse. On leur commande un sujet, un reportage, ils envoient les photos et puis hop, plus rien. Plus de retour, moi je sais parce que j'en ai souffert moi-même. Donc je fais toujours attention à rappeler, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Avoir un regard critique aussi sur les photographes parce que aujourd'hui le problème, on parlera peut-être de la crise de la photographie, mais le problème principal des photographes aujourd'hui, c'est pas leur talent, c'est pas le matériel, c'est parce qu'ils sont très talentueux, ils ont du très bon matériel, mais ils ne sont pas accompagnés. Comme il y a une crise du photojournalisme, il y a une crise des agences qui ont disparu, il y a une crise de la presse qui ne passe plus de commandes. Et au-delà de l'aspect purement économique, il y a un problème d'accompagnement des photographes qui sont seuls pour trouver leur sujet, seuls pour faire leur sujet, les produire, seuls pour les éditer, les sélectionner, et seuls pour aller après les vendre ailleurs. Avant, un photographe qui était dans une agence, il y avait une rédaction autour de lui qu'il accompagnait dans sa production photographique. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Donc, moi, j'essaie de recréer cet accompagnement-là, à mon petit niveau, avec les photographes.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense à une rencontre qui avait été organisée par le DEPS sur le métier de photographe. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, le photographe est auto-entrepreneur. C'est-à-dire qu'il doit se former, il doit avoir un discours sur ses photos, il doit savoir cadrer, etc. Donc ça, c'est très compliqué quand même.
Il faut, on est un petit peu dans une parenthèse, mais je pense que des historiens reviendront sur la période qu'on a connue de la fin des années 90 à 2000. Allez, on est en train de finir cette période. Voilà, on y est encore un peu. Comment la crise du numérique, qui a touché la presse dans son ensemble et la société dans son ensemble, parce que le numérique a transformé les habitudes, mais comment la photographie a finalement inauguré les choses à vitesse grand V. J'ai une anecdote très personnelle. Moi, je suis arrivé à Libé, donc fin des années 90, je travaillais en argentique, puisqu'il n'y avait pas de numérique à l'époque. Et donc, je travaillais en film. Donc, on faisait les reportages. Et puis, j'avais des petites enveloppes en craft dans mon sac. Et on mettait les pellicules dans les enveloppes en craft. Et si on était à Paris, il y avait un coursier qui passait. On donnait l'enveloppe. Il la ramenait au journal. Il la donnait à quelqu'un au laboratoire qui développait les films. Qui donnait les films à une autre personne qui tirait les photos. Et après, cette personne la donnait à une autre personne qui sélectionnait les photos, qui les donnait à une autre personne qui mettait la légende, qui les donnait à une autre personne qui les scannait. Quand le numérique est arrivé, quand je suis parti du journal, je faisais une photo et je l'envoyais directement depuis mon boîtier, dans la machine. Donc tous les métiers intermédiaires, ils sont écrasés. Ils n'ont pas disparu dans le sens où ce travail doit être fait et il est fait par les photographes aujourd'hui. Mais tous ces métiers-là ont disparu. Donc, il a fallu, trouver du boulot à ces gens-là qui disparaissaient. Deux, que les photographes s'adaptent et bien obligés de donner un fichier et une photographie prête à être imprimée. Chose qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, je ne suis pas très très vieux, mais j'ai connu une espèce de bouleversement où on est passé de la char UAB à l'avion supersonique en à peu près 15 ans. Et ça a bouleversé les habitudes de travail énormément.
Oui, tout à fait. Et on voit que la presse, justement, a été impactée de plein fouet hein, par rapport au numérique. Peut-être avant qu'on... Je passe la parole au public s'il y a des questions. Est-ce que vous souhaitez... tout à l'heure, vous m'avez parlé de Christian Cajol et de Raymond ouais. Depardon. J'ai sorti des ouvrages. Est-ce que ce sont des personnes qui ont pu effectivement vous aider à forger votre regard, qui ont une influence particulière sur le travail que vous avez fait?
Oui, complètement. Alors, il faut en citer deux, il y en a d'autres, mais c'est vrai que alors, Christian Cajol, par exemple, ça, c'est une sorte de mémoire, il raconte sa vie. Christian Cajol, c'est quelqu'un qui a créé le service photo à Libération en 80. Donc c'est lui qui a initié la politique photo de Libération en 81 et jusqu'à l'orée à la fin des années 80, c'est lui qui a été en charge du service photo. Alors c'est quelqu'un qui avait été élève de Foucault à l'école normale, qui n'était pas du tout dans la photographie. Il se trouvait que à l'époque il écrivait sur les arts en général et sur la photographie en particulier. Et puis un jour il y a eu besoin de trouver un photographe pour faire une prod. Et puis on lui a dit bah tiens t'en connais pas un et il a commencé comme ça. Et en fait, il a mis en place la politique de Libération qui, encore aujourd'hui, est en cours, de donner une place à la photographie et un point de vue aux photographes important. Donc moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler après, au sein de l'agence Vue qu'il avait créée après, par la suite. Mais c'est quelqu'un qui est très important dans l'histoire de la presse, dans l'histoire de Libération, dans l'histoire de la photographie de presse dans les années 80, parce que c'est lui qui a fait que les photographes auteurs, on va dire, ont été reconnus comme pouvant avoir un point de vue sur l'actualité, sur le reportage, sur la presse. Ça a été un des premiers à revendiquer ça et à défendre pied à pied tous les jours dans le journal qui est la place pour la photographie. Alors, le lien avec Raymond Depardon, ce qui est intéressant, c'est que Christian Cajol, je ne sais plus du tout la date de ça, mais vous la découvrirez, c'est au milieu des années 80, où il commande à Raymond Depardon une série d'été. Raymond Depardon lui dit bah, « Écoute, je vais aller à New York, je vais aller passer l'été à New York. » Et il se fait engager il suit les photographes d'un petit journal local new-yorkais. Et l'idée, c'était de faire une chronique. C'est-à-dire que tous les jours, Raymond Depardon développait ses photos, faisait un tirage et l'envoyait par le DHL qui partait tous les jours de la rédaction du journal américain et arrivait à Paris avec un petit texte accompagnant. C'était juste une impression photographique. Ça a duré un été, mais c'est quelque chose. C'est à l'été 80. Oui, voilà. Ça a marqué beaucoup l'histoire de la photographie et ceux qui aiment la photographie à Libé, parce que c'est vraiment le regard d'un photographe sur rien. Il n'y a pas d'événement. C'est juste un photographe qui se balade dans les rues de New York, qui est un peu perdu, qui fait une chronique de sa vie. Mais c'est une des premières chroniques photographiques. Et ce qui est intéressant, c'est que Raymond Depardon, à l'époque, était connu, mais pas autant que maintenant. Et Christian Cajol a dû se battre en interne à Libé pour que la chronique soit maintenue. Parce qu'au bout de 3-4 fois, c'est vrai que Raymond a un peu tendance à écrire des choses où il est « là, je m'ennuie, c'est terrible, il fait chaud ». Donc c'est vrai qu'au bout de 6 jours, les journalistes qui, dans un journal papier, on est toujours en train de chercher de la place. Donc on vous dit qu'un journaliste d'économie qui essaie de placer ses 15 000 signes très sérieux, lui dire bah, « t'en vire la moitié de ton papier pour qu'on mette cette photo », ça avait grincé. Mais Cajol a tenu bon. Et il a tenu cette chronique qui, après, a fait référence et continue à faire référence dans le sens où c'est dans un journal d'actualité, on a un espace et une respiration pour un point de vue pour le photographe où il n'y a pas vraiment d'infos, mais c'est pas grave. On tient une voix de la photographie dans de la presse. Et donc, ça a été édité en livre. Voilà, tout le recueil, c'est assez très poétique et c'est assez inspirant.
Oui, c'est vrai que ça fait rêver quand même un espace de liberté comme ça dans la presse. Et puis en plus, vous verrez, je vais vous le faire passer, les photos sont vraiment superbes. Hein. Voilà, donc là, on est à peu près à mi-parcours. Je ne sais pas si... Oui, déjà, ça passe vite. Hein. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que vous avez quelques questions? Alors, on va en prendre peut-être 2-3 maximum pour pas... Mais allez-y, profitez-en.
Hein, n'hésitez pas.
Voilà.
Bonsoir. Je voulais savoir comment est-ce qu'arrivent vos sujets en fait sur la table. Enfin, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une conférence de rédaction au jour, enfin les jours.
Alors, il y a deux types de conférences de rédaction. Il y en a qui sont un peu immédiates pour l'actualité de la semaine. Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui est venu? Qu'est-ce qu'on a en cours en ce moment? Et puis il y a des conférences de rédaction sur des temps plus longs. On essaie de réfléchir ce qu'on va faire à 2 mois, à 3 mois. Voilà, c'est à peu près la temporalité. Les sujets, ils viennent. On essaie d'avoir la conscience de la diversité des choses, de pas faire qu'un site avec que les malheurs du monde. Bon, on essaie d'avoir des choses plus légères. Voilà, on fait un journal, hein, comme on l'a toujours fait. Donc on essaie ça. Après, il y a deux. Les sujets viennent de deux manières différentes. Soit on se dit, dans 3 mois, cette chose-là va arriver. Et donc c'est bien si on est en amont et qu'on travaille en amont des personnages. Exemple précis, procès Cahuzac. On sait que le procès Cahuzac a une date, on la connaît. Donc 3 mois avant, on se dit, c'est bien si on commence à travailler là-dessus, sur cette affaire. Comme ça, quand le jour du procès va arriver, on aura plein de choses. Donc c'est comme ça que naît, par exemple, une obsession qui s'appelle « À la poursuite de l'argent sale », où Camille Polony travaille sur la corruption financière, en ayant pour but à un moment le procès Cahuzac, mais en fait, en avançant, on a traité de plein d'affaires du pôle financier et de la corruption. Le pôle financier et des magistrats nous ont ouvert des portes, nous ont ouvert pas des dossiers, mais en tout cas des histoires. Donc on a cette actualité-là qui arrive, et donc, en amont, on essaie de travailler pour que, quand l'actualité arrive, le lecteur, une fois de plus, il a quelque chose de beaucoup plus vaste. Ça, c'est la première temporalité. La deuxième temporalité, c'est il y a de l'actualité, il se passe quelque chose, et dans ce quelque chose, on essaie de voir s'il n'y a pas un fil à tirer, quelque chose qui irait plus loin. Alors, typiquement, l'affaire Théo à Aulnay-sous-Bois, on arrive le matin, il y a cette affaire, on se dit tout de suite qu'il faut y aller, mais nous, on n'y va pas juste pour faire un papier. C'est la difficulté. C'est-à-dire qu'on aime bien se casser la tête quand même. Donc, Camille Polony, encore elle, qui est rédactrice chez nous, part à Aulnay-sous-Bois, avec accompagnée Yann Lévy, qui est un photographe qu'on envoie sur place pour nous, avec elle, et ils commencent à travailler. D'abord sur l'actu, et puis après, quand les camarades BFM TV sont partis, nous, on y reste. Alors, on n'y est pas tous les jours parce qu'on n'a pas encore les moyens humains de mettre quelqu'un en permanence pendant 3 mois après. Mais ils y sont une fois par semaine, 2 fois par semaine. Ils tissent des liens avec les personnages, les gens. Ils vont voir les associatifs. Et ça fait une obsession de, je ne sais plus combien d'épisodes, mais il doit y avoir une quinzaine d'épisodes où on a l'affaire Théo qui démarre. Et à partir de là, on tire un fil sur qu'est-ce que c'est de vivre là-bas. Pourquoi les problèmes, quels sont les rapports avec la police. On essaie de creuser les choses. Quoi. Voilà. C'est sur ces deux temporalités-là qu'on travaille.
Est-ce qu'il y aurait une autre question?
Bonjour. J'aurais 2 questions, si c'est possible. Oui. La première, elle est assez simple, ça serait qu'est-ce qu'une bonne photographie pour vous? Enfin, assez simple, mais assez compliqué
c'est
aussi.
C'est simple, ouais.
Et la deuxième, je ne sais pas si vous êtes la personne la mieux placée pour les jours pour répondre à cette question, mais c'est pas grave, je la pose quand même. J'ai entendu parler des difficultés financières qu'avaient les jours en ce moment au niveau notamment des abonnés. Et que vous pensez peut-être à ouvrir en fait à de nouveaux investisseurs, donc et peut-être perdre votre indépendance, ce qui serait enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai lu, donc voilà c'est donc j'aimerais savoir comment ça se passe par rapport à cette situation économique qui semble un peu compliquée et notamment pour les nouveaux pure players
de manière générale
où c'est assez compliqué.
Première question, qu'est-ce que c'est qu'une bonne photographie? J'en sais strictement rien. Pour moi ça varie. Il n'y a pas de... Moi, je pense que plus on avance... enfin... Si une photographie qui allie à chaque qui allie une beauté plastique, en tout cas une efficacité plastique, c'est compliqué la notion d'esthétique et de beauté dans une photo d'actualité, parce que quand on traite de sujets difficiles, c'est compliqué d'assumer de se dire oh, c'est vachement beau, oui mais c'est quelqu'un qui meurt, oui mais c'est très beau. Voilà. Après, donc la beauté plastique dans le sens où elle sert le propos. Où elle vient de servir. Donc ça, c'est un équilibre à trouver. Et puis, le fait que... Moi, je ne sais pas si une photographie est bonne, mais qu'elle soit en rapport avec la personne qui l'a faite. C'est-à-dire que le photographe se reconnaisse totalement là-dedans et qu'on reconnaisse le photographe dans cette photographie. C'est ça qui est intéressant. Je n'aime pas trop les photographies, si bonnes soient-elles, qui flottent un peu par rapport à la personne qui l'a prise. Voilà. Je suis toujours fasciné dans les revues de presse à la radio quand on dit le nom des journalistes et jamais des photographes. Très très peu. Voilà. Donc moi je me bats, c'est un peu l'histoire de ma vie, pour que les photographes soient reconnus en tant qu'auteurs, même s'ils font de la photo de sport toute l'année. C'est pas grave. On peut faire des choses magnifiques en photo de sport. Et au contraire, si on se dit je vais tenter ça et je vais faire une proposition, et cette proposition je vais l'assumer comme tel, parce que voilà, c'est ma photographie. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça vous plaît pas. Mais c'est ma photographie. Voilà. Donc, pour moi, une bonne photographie, c'est celle qui ressemble le plus à ce que veut faire son auteur. Voilà. Sur votre deuxième question, je ne suis effectivement pas la meilleure personne pour vous répondre, mais lesjours.fr, aujourd'hui, on a 9000 abonnés. Ce qui est pas mal pour un site d'info qui s'est lancé il y a 2 ans. On est une équipe de 11, on est totalement indépendant, on n'a pas de pub, on n'est que sur abonnement. On est 11 pour tout faire, le journalisme, la technique, le marketing, la communication. Donc ça fait des bonnes journées. C'est sûr que ça suffit pas, parce que si vous voulez, dans le projet des jours, on a amené, au-delà de l'aspect éditorial, on a amené aussi, ou en tout cas on tente d'amener dans le web, des bonnes pratiques avec les journalistes. Le milieu, il est en crise parce que aussi le web, assez rapidement, pour les journaux papier, a été considéré un petit peu comme une poubelle, où les journalistes qui travaillaient là, on les payait pas en pige, ils sont tous entre entrepreneurs et puis on les paye au lance-pierre. Bon. Alors nous, on a amené, en plus de l'exigence éditoriale, un truc où les gens sont payés en pige, en salaire, le mois d'après. Voilà, on essaie on leur paye leurs frais, les frais kilométriques, enfin, j'entre dans une basse. Mais tout ça, ça a un coût. Voilà, parce que pour que les gens aient le temps de travailler, il faut les payer correctement. Hein. Personne ne roule sur l'or, mais voilà, qui travaille correctement. Donc, pour l'instant, nous, on n'est pas encore à l'équilibre. Mais on a des investisseurs. La majorité, elle est aux journalistes. C'est les journalistes qui ont la majorité. Et on a des principes de charte que je serais infoutu de vous expliquer, parce que les gens... Alors vous en connaissez plus que moi, mais voilà, on a un principe de charte juridique très ficelé, qu'on a ficelé dès le début, où les journalistes seront toujours de toute façon la majorité. Donc on a des gens qui aujourd'hui nous aident, des investisseurs, on a un tour de table comme tout le monde. Après, la seule chose qui nous aide, c'est avoir des abonnés. C'est la seule, parce qu'on n'a pas d'autres sources de revenus, mis à part nos abonnés et nos lecteurs. Voilà. Donc c'est à peu près la seule chose. Après, de manière générale, le contexte est compliqué pour tout le monde. Il est compliqué dans la presse en général. Il est compliqué dans la presse papier pour les nouveaux entrants. On l'a vu avec Hebdo, et vraiment, où même si c'est deux projets différents, avec leurs défauts, leurs qualités. Aujourd'hui, monter un média, arriver dans cet espace-là, c'est très compliqué. Voilà. Et il faut savoir que quand on est un média web, un pure player, on n'a pas d'aide à la presse. Les aides à la presse sont réservées à la presse papier. Donc quand on entend les sommes magnifiques des aides à la presse, tout ce qui est pure player numérique touche zéro. Voilà, donc là, c'est aussi un travail que nous on fait par rapport au pouvoir public, de leur faire comprendre que donner des bourses d'innovation, d'émergence sur la technique, c'est une bonne chose. Avoir aidé l'innovation éditoriale, ce serait peut-être pas mal. Voilà, donc c'est un point un tout petit peu plus technique, mais c'est vrai qu'on est, on est un peu dans ce combat-là, quoi.
Et pour rebondir sur ce que vient de dire Sébastien, on a eu une séance, un débat en fait sur les modèles économiques de la presse très récemment, que vous pouvez retrouver en ligne. Effectivement, les journaux sont membres du SPIL, hein, c'est le syndicat de la presse d'information indépendante en ligne qui milite justement pour faire évoluer les aides à la presse, pour la presse en ligne, etc.
Je vais rebondir une seconde sur le modèle économique. Aujourd'hui, sur des sites d'info, personne n'a trouvé le modèle et la martingale. Personne. L'abonnement tient la route, mais est-ce que là, en ce moment, la grande mode, c'est de donner ce qu'on veut. Voilà, c'est y a plus d'abonnement, mais c'est l'adhésion. Voilà ce qu'on appelle l'adhésion. Le lecteur donne ce qu'il veut. C'est très compliqué de monter une structure avec ce type de modèle. Donc voilà, il n'y a pas de modèle parfait. Tout le monde teste un truc. Voilà. Mais c'est sûr que l'indépendance et l'exigence, ça a un coût.
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je trouve ça très intéressant, votre conclusion. C'est-à-dire, effectivement, la qualité, ça a un coût. Il y a une profusion d'images amateurs. Pour autant, il y a un vrai métier de reporter photographe. Très concrètement, avec combien de photographes travaillez-vous et comment est-ce qu'ils sont choisis?
Alors, c'est... Alors, le nombre, il est extrêmement variable puisque c'est un peu comme les sujets. Ça dépend... En fait, nous, on se pose la question de l'image dès le début du sujet. C'est-à-dire qu'à la fameuse conférence de rédaction dont on parlait tout à l'heure, on se dit, bah voilà, on va faire tel sujet, donc bah on y va, ok, super. Alors, dans beaucoup de journaux aujourd'hui, la rédactrice, le rédacteur, il part, puis il revient, et une fois qu'il a écrit son papier, il passe au service photo en disant, ah, au fait, je suis allé là-bas, il faudrait trouver une photo. Voilà, nous, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que dès qu'il part, il part avec un photographe. Ou alors, on se dit, tiens, on va le traiter en dessin. Donc, à ce moment-là, on demande à un illustrateur de partir avec lui ou elle. Il bosse à posteriori. Enfin, on se pose la question de l'image dès le début. Donc, histoire de recréer un couple. Hein, ce que j'appelle un couple, rédacteur, texte et photographe. Vous allez me dire, on s'embête. Alors, des fois, même, on rajoute quelqu'un qui fait du son. Ils sont trois à partir. On est complètement barjot. Alors que la mode est plutôt aux journalistes Shiva qui vont faire le live tweet, la photo, le texte, un bout de vidéo. Voilà. Bon, nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans la reconnaissance de la spécificité de chaque métier, et notamment des métiers de photographe. Donc, le nombre de photographes avec lesquels on travaille, il est très variable, parce qu'il dépend du sujet. Là aussi, on essaie d'avoir une diversité d'écriture photographique et on essaie d'adapter à chaque sujet l'écriture photographique du photographe à qui on va demander de travailler pour nous. Alors ça, c'est un travail qui est votre serviteur. L'idée, c'est d'avoir... On a pris, quand on a démarré les jours, on a pris une stratégie par rapport à la photographie qui est le strict inverse de ce que font d'habitude des sites d'info. Normalement, si vous êtes quelqu'un de normalement constitué et un peu économe, quand vous lancez votre site d'info, vous allez voir l'AFP ou Reuters, c'est-à-dire qu'on appelle les grosses agences télégraphiques, pour lesquelles j'ai le plus grand respect, et on prend ce qu'on appelle un abonnement à ces agences qui couvrent toute l'actualité internationale, et vous payez tant par mois, et vous avez droit à toutes les photos qui tombent sur le tuyau de l'AFP. Et c'est tout. Et vous n'utilisez que ça. Nous, on ne fait pas du tout ça. On s'est tourné vers le réseau des photographes, des agences, des collectifs indépendants qui ont tous leur site internet, qui ont tous leur base d'archives accessible. Voilà. Et ça, où que ce soit dans le monde. Voilà. Le numérique a permis ça, c'est-à-dire que c'est le grand paradoxe. Il y a un réseau de photographes talentueux, indépendants, partout dans le monde, prêts à travailler. Donc on s'est tourné vers eux. Alors, c'est un tout petit peu plus de travail parce que au lieu d'avoir une source, vous en avez 80. Et qu'il faut avoir l'œil un peu sur tout, tout le temps, de savoir ce qui se fait, quelle personne a travaillé sur tel sujet ou est plus efficace sur tel domaine. Voilà, donc c'est un travail un peu, un peu plus long, mais finalement, on noue des réflexes et des collaborations avec des photographes qui viennent nous proposer aussi des sujets qui peuvent devenir des obsessions chez nous. Voilà, donc c'est très divers, mais l'idée, c'est vraiment de faire travailler que des photographes indépendants.
Donc finalement, de ce que j'entends, vous nouez en fait des relations de confiance avec les uns et les autres, et que finalement, les gens reviennent même vous proposer des choses.
Ouais. L'idée, c'est vraiment de réinstaurer du dialogue. Qui a été pas mal perdu pendant les 10-15 dernières années. Je suis toujours un peu embêté quand je dis ça, parce que il y a plein de gens qui font bien leur boulot, hein. Mais il y a des contraintes économiques aujourd'hui dans les journaux qui font que c'est très différent, et ils n'ont pas forcément la main là-dessus. Il y a plein d'éditeurs photos, d'iconographes, qui râlent toute la journée et sur tous les forums parce que tout ce qu'on leur demande, c'est que la photo soit gratuite. Voilà, point. La seule valeur de la photo, c'est qu'elle soit gratuite. Bon, c'est bien qu'elle soit gratuite, mais il y a un moment où nous... on est dans des tarifs où on adapte nos tarifs au web et on fait ce qu'on peut. Hein. Je ne dis pas qu'on n'est pas ceux qui payent le mieux de la terre. Mais on instaure un dialogue. Si on paye pas cher, on dit pourquoi. Et puis on essaie toujours d'équilibrer telle ou telle collaboration. Voilà, c'est toujours en dialoguant, toujours. Ouais,
Et j'imagine que ce dialogue, c'est effectivement avec François Meurice aussi, au niveau de la rédaction, au niveau de l'arbitrage. Est-ce que vous pouvez nous décrire en deux mots comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a eu des arbitrages plus faciles que d'autres, par exemple ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent parfois frotter ou pas ?
Non, parce que vraiment, j'ai toujours tendance à décrire un truc paradisiaque, mais on est une équipe qui s'entend bien, donc... ça va, on s'engueule pas trop. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on va publier un papier demain, jeudi, aujourd'hui, j'avais deux papiers qui arrivent, donc j'ai le texte du journaliste. Et donc, moi, je travaille sur ce texte en retirant des mots-clés, des informations de qui on parle, et de voir, suivant l'importance des lieux, des événements, des personnages qui sont cités dans le papier, est-ce que ça vaut le coup d'avoir la tête de tel personnage, d'avoir une image de tel événement qui est raconté ou pas, voilà. Donc moi, je fais un travail d'iconographie, soit avec ce qui existe dans les agences, soit avec des productions qu'on a fait faire pour ce papier. Donc à partir de là, moi je choisis un papier des jours, c'est à peu près 15 000 signes. Donc c'est une photo de header, c'est-à-dire qui est en haut du papier. Et il y a 3 à 4 images à l'intérieur. Donc c'est pas un article, une photo. C'est que nous, on est au minimum à 4 photos par papier. Donc vous avez déjà là-dedans. Et en tout cas, 4 espaces dans la page scrollée. Et dans chaque espace, je peux rajouter des diaporamas, des choses comme ça. Donc, on peut augmenter. Alors, c'est pas pour ça. C'est pas parce qu'on peut mettre 20 photos qu'il faut les mettre. mais en tout cas, on peut. Donc, on a la place pour s'installer. Après, c'est un choix de vraiment. La majeure, c'est la narration, c'est le texte. Donc, moi, je suis le texte. Si le journaliste attaque sur un moment précis ou un personnage précis, je sais qu'il va falloir que sur la photo ou l'article, j'ai ce moment précis ou ce personnage précis. Et après, je vais dérouler comme ça tout au long pour que le lecteur, au fur et à mesure de sa lecture, il voit des images qui lui confortent dans cette ambiance-là ou dans ce point de vue-là. Alors après, on peut avoir des choix d'édition différents. Voilà, on se dit, mais tiens, ça marche mieux à tel endroit. Voilà. Mais ça reste vraiment très cordial et très simple. Dernier point, on est sur du web, donc il faut s'adapter à tous les supports. Donc en choix photo, on fait des choix de photos horizontales, pour que ça marche sur vos écrans portables. Et puis, on essaie d'avoir des espaces utiles pour que quand la photo est redimensionnée sur son téléphone, vous puissiez avoir un truc correct et pas quelqu'un de coupé ici. Donc, et idem sur vos tablettes. Donc ça, c'est un travail qui est important en édition photo sur le web. Parce que, en fait, je vais entendre un petit truc technique, dans notre CMS, c'est-à-dire toute la partie interne, le back-office, on recadre les photos suivant les supports. Voilà, à la main. Donc, c'est pour ça que les photos sont bien, nickel, quel que soit le support où vous les regardez. C'est la difficulté en plus du web. Alors, nous, on le fait à la main, parce qu'on a moins de... Le New York Times, sur leur site internet, dans le CMS, ils ont, quand ils passent une image, il y a 80 fichiers qui se génèrent, différents, avec des redimensionnements différents, des tailles différentes. C'est une machine de guerre absolue. Donc c'est assez incroyable. Bon, mais voilà, on n'en est pas là encore, mais il y a cette exigence-là graphique de vraiment travailler les images suivant les supports. Sur le web, c'est très important.
Oui, en effet, tout à l'heure, vous me parliez du New York Times. Là, je fais passer un exemplaire papier, donc on ne voit pas la version en ligne. Mais ça, c'est inspirant pour vous de ce que vous m'avez...
Complètement.
Voilà. Donc ça, on ne pourra pas regarder ce soir, mais effectivement...
Moi, je vous invite à regarder. Alors, je dis un truc très évident. Hein, quand vous posez la question à des photographes, des journalistes, ils vous répondent New York Times. Parce que c'est quand même le titre qui a réussi sa mutation numérique assez parfaitement. Alors, il faut se rappeler d'où ils viennent. Au début des années 2000, ils ont viré entre 800 et 1000 journalistes. À l'époque, on se disait, c'est terminé. 15 ans après, ils en ont remployé autant de personnes, mais sur des fonctions totalement différentes. Et ils ont réussi leur mutation numérique dans le sens où le New York Times aujourd'hui, alors je n'ai pas les chiffres précis, mais ils ont 3 millions d'abonnés et je crois un peu moins de 2 millions d'abonnés numériques. Voilà, c'est-à-dire que chaque mois, ils font 140 000 abonnés nouveaux. À titre de comparaison, Mediapart a 140 000 abonnés. Voilà. Donc eux, ils les font tous les mois. Et ils ont réussi, alors au-delà des aspects purement chiffrés, ils ont quand même réussi à créer des vraies passerelles entre ce qu'ils peuvent faire sur le papier, les productions photographiques qui sont faites sur le papier et la manière dont elles sont traitées sur le web et sur leur appli. C'est assez exceptionnel. Voilà. Et ils sont toujours dans une recherche d'innovation, de forme, de présentation des sujets, de longueur des papiers. Donc ça, c'est très, très inspirant. C'est vraiment impressionnant. Et ils ont fait quelque chose, mais qui est depuis longtemps. Ils ont 400 développeurs au New York Times, ce qui fait qu'à chaque fois, ils créent des petits groupes. Il y a 2-3 développeurs et des journalistes et des iconographes qui, sur un sujet, vont travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on a l'aspect technique qui vient et on amène les développeurs et les gens de la technique à la table pour dire voilà l'histoire qu'on a à raconter et on va réfléchir ensemble à la manière dont on va la raconter. Mais finalement, les développeurs amènent leur point de vue aussi sur ça. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire dès le début aussi. C'est-à-dire que les développeurs, ils sont à la table de la conférence de rédaction. On en a un, des fois deux. Mais c'est aussi important de trouver des gens qui ont un point de vue sur l'histoire qu'on raconte pour amener des solutions techniques.
Oui, tout à fait. Je vois qu'on s'approche de la fin. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole. J'ai encore beaucoup de questions, mais je vais en poser une toute dernière. Je vous laisserai après la parole. En fait, là, ce qu'on a vu à travers ce que vous disiez, il y a une vraie mise en scène de l'information. Il y a les personnages. D'ailleurs, on peut cliquer sur les personnages en haut de chaque épisode. Donc, tout ça, ça veut dire aussi qu'il faut s'adapter au web, travailler en fait cette matière de manière en fait, hein, vraiment raconter quelque chose. Moi, j'ai une question mi-figue, mi-raisin. Hein, allons-y pour la fin. Est-ce que vous avez un regret, je dirais, en termes de couverture de l'actualité? Vous expliquez que vous envoyez des photographes, des journalistes en pressentant certains sujets qui pourraient faire l'actualité. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont échappé? Et inversement, est-ce que vous avez fait des bons coups? Voilà.
Oui, les deux, mon capitaine. On a fait des bons coups. On n'est pas trop dans une logique de bon coup, même si on essaie d'avoir du scoop, de l'investigation, de l'enquête, mais on est plus à ce niveau-là. Mais je n'ai pas en tête là. Mais Mais voilà, il y a plein de choses qui sont réussies. Il y a des choses qui sont loupées ou moins réussies que ce qu'on pensait, mais c'est normal. Et il faut surtout pas s'interdire de les faire, parce que sinon, sinon on arrête de les faire. Le regret, c'est que parfois, j'aimerais qu'on puisse en faire plus. Notamment sur de l'international et de l'étranger, mais c'est plus compliqué. Ça, c'est vraiment une question purement budgétaire et de réaction. C'est vrai que nous, on est quand même encore sur une taille de médias où il y a des choses où on peut pas suivre. Voilà, typiquement ce qui s'est passé à Gaza, on aurait beaucoup aimé faire des choses là, mais on pouvait pas suivre. Voilà, pour plein de raisons. Donc bon, ça nous embête, mais on se dit, le coup d'après, ça ne nous empêche pas de faire de l'international. Hein, tout le travail d'Olivier Bertrand sur la Turquie pendant 2 ans, ça c'est quelque chose de très très bien qu'on a pu engranger. Mais c'est sûr que ça fait partie des regrets, mais c'est dû aussi à notre taille aujourd'hui qui ne nous permet pas de faire certains sujets. Voilà, donc il faut faire des choix. Mais juste peut-être pour terminer, je voulais vous montrer, parce que toute cette idée d'édition photographique, de raconter une histoire rien qu'avec des images, ce n'est pas quelque chose qui est très récent. C'est quelque chose qui est même très ancien. Et je regardais... Non. Ça, c'est le catalogue d'une expo qui a eu il y a 3 ans, je crois, sur le magazine Vue. Le magazine Vue, c'est un magazine français qui était paru à l'entre-deux-guerres, qui était dirigé par un monsieur qui s'appelait Lucien Vogel et qui a innové beaucoup à l'époque par ses mises en page et par le fait de faire travailler des photographes. Et donc, c'était des grandes doubles pages comme ça sur l'actualité avec des choses qui sont encore aujourd'hui graphiquement qui sont utilisées. Et il y a notamment cette double page qui est faite par Brassai, le photographe Brassai, qui, à la fenêtre de son appartement, a vu quelqu'un par terre. Et en fait, il raconte l'histoire, la manière dont, en laissant son appareil photo, mais en prenant une photo régulièrement au fur et à mesure que y a quelqu'un qui vient à côté de la personne par terre, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis on appelle la police, et puis il y a tout un attroupement, et puis à un moment, la police emmène la personne, et puis il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il raconte une histoire en 1, 2, 3, 4, 8 photos, et c'est d'une invention à la fois graphique, c'est d'une simplicité abyssale, mais on est en 1932. Voilà. Donc, en fait, nous, en termes numériques, on a à peu près les mêmes idées, la même exigence, mais on adapte au support. Là, il a raconté cette histoire-là qu'avec des images et sur une double page. Pour avoir toute cette histoire sur cette double page. Il s'est adapté à son support de la double page. Voilà. Bah, nous, ce qu'on fait, modestement, c'est d'essayer de raconter des histoires sur la longueur, que le lecteur apprenne des choses sur l'info, parce qu'on sur une actualité qui est proche, parce qu'on ne fait pas beaucoup de choses très froides, mais en s'adaptant au support qu'on a aujourd'hui.
Donc, je vais vous faire passer ce document. Est-ce que vous souhaitez, l'une d'entre vous, poser une question ?
J'ai plus de chiffres.
Du coup, je vais reposer une question. Moi, ça serait plus sur votre façon éditoriale, donc voilà, où les jours ça fonctionne en série et notamment avec le texte, vous l'avez dit, en majeur et la photo en mineur. Pourquoi par moment, enfin, peut-être que vous êtes posé la question en rédac de presse, mais enfin en conférence de presse, pardon. Pourquoi en fait ne pas faire l'inverse et des fois faire que des reportages photos et où le texte est vraiment la mineur et où on prend que des photos et vraiment quasiment sans texte ou avec un petit peu de texte. Ouais.
Moi, je suis assez dubitatif avec ce genre de forme. Parce que c'est assez souvent un pis-aller. C'est assez souvent quelque chose où on n'a pas d'idée, donc on va faire un diaporama. je suis un peu embêté avec ça. Moi, j'aime bien l'idée que la photographie, elle vive au sein de quelque chose, au sein d'un journal. Alors, là, vous avez raison, c'est que c'est intéressant de mettre la photographie au premier plan. Alors, on le fait de deux manières. La première manière, c'est en publiant des sujets de photographes qui nous sont amenés par des photographes, qui ont été faits par eux, extérieurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de les faire rentrer dans notre système éditorial, notamment en faisant entendre la voix du photographe. C'est-à-dire qu'en général, c'est pas du portfolio classique, on prend des images et puis vous cliquez juste en dessous et vous avez le photographe qui, dans votre oreille, vous raconte que cette image, ben, il l'a fait comme ci, comme ça, pourquoi il a fait ce sujet. Voilà, en amenant quelque chose en plus dans notre environnement et dans notre modèle éditorial. Moi, je crois beaucoup à la puissance de la photographie, mais je pense que le plus mauvais service qu'on lui ait rendu, c'est de la mettre sur un piédestal. Et ça, on l'a fait au début des années 2000, en disant « la photographie, c'est formidable, plus personne n'en fait, mais regardez, c'est extraordinaire, on la met au mur ». Et moralité, les journaux ont un peu arrêté de travailler avec des photographes, en se disant « oh là là, c'est un photographe oh ». Christian Cojol, dont je parlais tout à l'heure, en 81, le jour de l'investiture de François Mitterrand, il fait travailler 6 photographes de Magnum, la grande agence Magnum. Et il les fait tous travailler au tarif Libé, qui à l'époque était, si je ne m'abuse, de 400 francs par jour. Ce qui ne fait pas beaucoup. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est d'aller chercher des grands noms pour venir les faire bosser sur notre support, dans notre environnement. Pas de les sacraliser. Ouais, les sacraliser, ils n'ont pas besoin de nous. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est de créer comme ça des ponts, mais de continuer à faire de la presse. C'est cette exigence-là plus que j'ai envie de faire. J'ai eu la chance de faire ça avec notamment, bah, sur, on parlait de l'obsession sur Aulnay-sous-Bois. Au moment où je fais Aulnay, où on fait Aulnay, les gens de Magnum m'appellent et ils me disent bah, écoute, il y a Paolo Pellegrini. Pour ceux qui connaissent, c'est un immense nom de la photographie aujourd'hui, qui a fait un sujet avec les pompiers d'Aulnay-sous-Bois il y a un mois. Est-ce que ça t'intéresse ? J'ai dit oui, mais à mon tarif, parce que j'ai pas l'argent pour payer Paolo Pellegrini. Il me dit oui, non, mais il est très content. Voilà. Donc on a passé ce diaporama de Paolo Pellegrini, qui est en noir et blanc, sur les pompiers d'Aulnay, sur des interventions, ça claque comme pas possible. Mais c'est chez nous, voilà. C'est dans notre environnement, quoi. C'est plus ça qui m'intéresse.
Bonsoir. Vous avez parlé de cette notion de développeur là. Et là-dessus, apparemment, vous suivez l'exemple des Américains. Mais vous ne pensez pas que c'est une manière, là, où on est dans la recherche du politiquement correct, tout simplement, cette façon de se concerter pour faire comment présenter l'information. C'est une manière de dorer la pilule, d'édulcorer l'information, alors en perte de son acuité. Ça, c'est bon pour un public abruti comme les Amerlocs. Il n'a rien d'exemplaire. Hein. Mais moi, je ne considère ça comme une évolution pour la presse, pour la... à la française. Merci.
Alors, c'est pas forcément un... C'est pas pour se dorer la pilule. Les Américains ont beaucoup de défauts, hein. Je suis pas fan. Hein. Mais là, pour le coup, ils ont bien joué parce qu'ils ont eu, en termes journalistiques et sur les métiers du journalisme, ils ont réagi beaucoup plus tôt que nous, notamment sur des formations. L'Université de Columbia a ouvert des formations de data et de journalisme au début des années 2000. Nous, on était encore en train de se demander si le graphique devait être jaune, rose, bleu, et on n'est pas encore très, très... Ouais. Donc, pour le coup, ils ont ouvert des choses quand même sur comment on fait pour que deux métiers qui ne peuvent pas être plus éloignés qu'un journaliste qui va faire un reportage sur le terrain et quelqu'un qui code un site, c'est-à-dire qui aligne des lignes de code toute la journée pour faire un site internet. Ces deux personnes-là puissent se rencontrer à un moment pour faire une forme qui a du sens et qui a de la gueule. Voilà, c'est un peu ça qu'on essaie de faire. C'est pas facile tous les jours parce que c'est des cultures différentes, des métiers différents, mais c'est l'idée, c'est de faire travailler des métiers qui... ensemble qui n'ont pas forcément la même culture. Mais on va y arriver.
Je crois qu'il y avait encore une question. Ah oui.
Bonjour. Quel conseil donneriez-vous à un jeune photographe qui n'est pas forcément dans une agence ni dans un collectif pour réussir à travailler avec vous ? Et sur le temps long, surtout.
De faire des photos et de m'envoyer un mail. Non, mais moi, alors moi, on est une toute petite équipe et je suis tout seul à m'occuper de la photo. Donc, mon mail est dispo sur le site, je pourrais vous le donner. Faut pas hésiter à m'envoyer. Voilà, je réponds, je regarde. Après, on a beaucoup de demandes, beaucoup de propositions, évidemment. Mais moi, j'essaie de voir à peu près tout le monde. Et parce que toutes les écritures photographiques m'intéressent. Il faut juste qu'à un moment, ça corresponde à un sujet que j'ai chez moi. Voilà, c'est aussi bête que ça. Après, tout est évidemment ouvert. C'est pour un ami ou...
Une dernière question peut-être où on s'arrête là comme bon bah s'il n'y a pas d'autres questions, donc déjà moi je tenais à remercier Sébastien Calvet pour sa disponibilité, pour tout ce qu'il nous a raconté. Je tenais à vous remercier d'être venu et de votre attention. Et puis je remercie aussi bien sûr la régie et les collègues qui nous ont aidés ce soir. Et je tenais à vous dire donc la prochaine date, ce sera un débat sur le récit journalistique le 4 juin. À 19h. Donc, vous retrouvez les infos sur le site de la BPI. Et donc, comme je le disais, vous retrouvez le podcast de ce soir également sur le site Web TV Radio de la BPI. Merci, très bonne fin de soirée.
J'ajouterai lesjours.fr. Abonnez-vous pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. C'est 1€ le premier mois. Et puis après, c'est 9€ par mois. Ce qui finalement. Parce que vous avez tous été abonnés un jour à Libération ou au Monde, et puis vous n'avez pas lu, vous les avez reçus, et ils n'étaient pas déballés, vous avez eu une pile de journaux qu'un jour vous avez jeté en regrettant. Alors que quand vous êtes abonné à un Pure Player, vous, même si vous ne lisez pas, tout est toujours disponible. Les archives sont en ligne en permanence. Donc c'est jamais perdu. Voilà. Et je voulais vous remercier encore pour votre invitation et puis d'avoir été là. Merci.
Merci.